C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour, c'était il y a 30 ans, le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose accidentellement lors d'un essai technique. L'énergie libérée lors de cette explosion entraîne l'émission brutale de produits radioactifs dans l'atmosphère. Au total, ce sont 12 milliards de becquerels qui se répandent dans l'environnement, en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, mais aussi en Europe en raison d'une météo défavorable. 30 ans après, de nombreuses zones sont toujours interdite au public en raison des radiations. C'est le cas de la région de Bryansk en Russie, à quelques kilomètres de la Biélorussie, le pays le plus touché par la catastrophe. L'héritage de Tchernobyl en Russie, c'est un reportage d'Étienne Bouche.
Depuis Tchernobyl, on se représente ce morceau de Russie forcément gris et sans espoir. Pour le moment, le ciel nous donne raison. La matinée est brumeuse et la route ressemble à celle d'une toile d'Isaac Lévitan. À bord de la voiture, des militants russes de l'organisation Greenpeace. Ils sont venus mesurer le degré de radioactivité dans la région, 30 ans après la catastrophe. Nous partons vers la frontière biélorusse. Là, on vient de s'arrêter au bord d'une route totalement déserte. On est en direction de Sviatsk, qui est un village abandonné. Au loin, on ne voit que de la forêt. C'est un paysage de la province russe assez typique. Dans l'équipe de Greenpeace, il y a notamment Andrei Petrov, la cinquantaine, venu de Saint-Pétersbourg.
Avant, Sviatsk était un village assez florissant. Il y avait pas mal de monde qui y vivait. Mais il a fallu l'évacuer à la suite de la catastrophe de Tchernobyl il y a 30 ans. Là-bas, il n'y a plus personne. Les maisons sont en ruine. La nature reprend ses droits. Ça fait 30 ans que c'est abandonné.
À l'endroit où nous nous trouvons maintenant, c'est encore propre.
Ici, c'est propre. On a vérifié avec le matériel, mais là où on va, il faudra être équipé, mettre des bottes, etc. Là-bas, ce sera un petit peu plus risqué. Il faudra rester attentif, suivre les instructions. J'espère que tout se passera bien.
Sviatsk se trouve à 1 km de la Biélorussie. Sa population avait déjà beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, mais depuis la catastrophe, il ne reste plus que le cimetière. Et pourtant, les tombes sont fleuries. Ici, il est conseillé de rester sur le chemin et de ne pas s'aventurer dans la forêt. Nous sommes en zone d'évacuation et le niveau de radiation est élevé. Rachid Alimov est spécialiste des questions nucléaires chez Greenpeace. Vous nous avez donné tout à l'heure ce petit boîtier rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert ?
Cet appareil indique la dose que vous accumulez à l'endroit où vous vous trouvez. Ici, des particules sont dispersées partout à cause de l'accident de Tchernobyl. Une grande quantité de radionucléides s'est dégagée dans les zones alentours. Si ces particules pénètrent dans l'organisme, par la respiration ou la nourriture, c'est très dangereux, car elles agiront sur l'organisme au niveau des cellules.
À Sviatsk, les experts enregistrent un taux de radioactivité d'environ 2 microsieverts par heure. C'est beaucoup plus que la dose normale. Mais le promeneur peu regardant peut s'y rendre sans difficulté. Il n'y a ni barrière, ni panneau informatif.
Là, on s'apprête à reprendre la voiture et en fait, on vérifie les bottes avec un dosimètre. Là, on passe un village, on voit des fermes abandonnées visiblement. Le soleil s'est levé, du coup, on voit beaucoup mieux la végétation. On est toujours sur la même route, très mauvaise, caoutchouteuse. Et on va dans une localité où on va rencontrer des locaux.
Starie Bobovitchi est un village de 900 habitants. Des poules traversent la route tranquillement et des babouchkas en fichu sont assises sur un banc, immobiles. À l'angle de la Maison de la Culture, un petit groupe de retraités discute à voix basse. Chacun a son petit potager, et manger des aliments toxiques, ça ne les préoccupe pas tellement. Mais ils s'emportent très vite contre le prix des médicaments et la prise en charge à l'hôpital.
Là, on est chez Victor, un habitant du village, et Alexei est en fait en train de mesurer la radioactivité avec son instrument.
Victor a 58 ans, c'est un ancien ouvrier agricole. Il a travaillé 30 ans dans un kolkhoz et touche aujourd'hui une retraite de 4000 roubles par mois, environ 50 euros. Il en dépense un tiers en médicaments et dit ne toucher aucune aide sociale. Le taux de radioactivité est élevé et pourtant Victor et sa femme font pousser des légumes dans le champ derrière la cour. Alexei Kisilyov, de l'équipe de Greenpeace, est parti inspecter le terrain.
Comment vous expliquez qu'ici, il y ait plus de radiation qu'ailleurs ?
Ici, c'est de la terre. Là-bas, on a de l'asphalte et du béton. Là, ce n'est que de la terre pure. C'est pour ça, personne n'a jamais rien nettoyé ici.
Lorsque la catastrophe s'est produite, en 1986, les autorités ont mis beaucoup de temps à prendre la mesure du danger. Les premiers jours, la vérité sur Tchernobyl est cachée et aucune mesure sanitaire n'est prise. Les habitants racontent que le 1er mai, ils sont tous descendus dans la rue, comme d'habitude, pour la fête du travail. Personne ne savait rien. La population locale a été lourdement exposée à la radioactivité. Alexei poursuit ses mesures dans la cour du lycée de Novozybkov. Côté russe, c'est la principale ville de la zone dite de Tchernobyl, 40 000 habitants. Il passe son compteur le long de l'établissement couleur ocre. Près d'une gouttière, l'appareil devient fébrile.
Les émissions de la centrale sont venues jusqu'ici et tout s'était accumulé sur le toit. Puis il y a eu des averses et l'eau s'est écoulée par la gouttière. Du coup, tout a atterri là. Si on regarde à la base de la gouttière, on voit que l'eau a permis de purifier le toit, car plus on va vers le haut, plus la concentration diminue. À une hauteur de 3 mètres, on peut voir que ça a baissé de manière significative. Il n'y a presque plus rien. 30 ans se sont écoulés, une partie du toit a été changée, il n'y a plus la même concentration, mais à cet endroit-là, ça reste élevé.
Il y a 30 ans, Sergueï Sezov était déjà professeur dans ce lycée. Un soir d'avril, il entend parler à la télévision d'un incident dans une centrale nucléaire.
C'était un lundi à 9h du soir et j'ai pensé que le lendemain, il serait bien de sortir le matériel et de regarder ça de plus près. J'enseignais les mesures de premier secours et au programme, il fallait apprendre aux élèves à utiliser ce type d'instrument. Je suis sorti avec les étudiants et on a commencé à mesurer, ici précisément. L'appareil indiquait alors 7 milli-run-gun. Sauf que la sécurité civile n'est venue que le 3 mai. Et ce n'est qu'à partir du 3 mai qu'ont commencé les actions de liquidation. Nous n'avons pas pu faire à temps le traitement à
l'iode.
Le jour même de la découverte, j'ai dit à mes étudiants de boire un verre d'eau avec une goutte d'iode. Je ne savais pas comment il fallait doser. J'avais des trousses de pharmacie pour mes formations, des choses pour les militaires. Et puis vous savez comment sont les Russes. 3 gouttes et pourquoi pas 10? Du coup, certains se sont retrouvés avec des allergies. Par contre, nous, on s'est bien occupé de nos étudiants. Une infirmière est venue, elle a pris en charge tout le monde. 5 gouttes chacun, 3 pour les plus jeunes. Mais tout ça, on l'a fait après le 15 mai. Et à ce moment-là, ça ne servait déjà plus à rien.
Vous êtes professeur, vous travaillez avec des enfants. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont suffisamment informés ?
Bien sûr, nos gamins sont instruits. D'ailleurs, dans leur programme, ils ont un cours sur les mesures d'hygiène à respecter. C'est moi qui le donne. L'objectif, c'est qu'ils aient conscience du contexte radioactif. Ils ont une évaluation à passer. Mais quand je leur pose la question « Y en a-t-il parmi vous qui mangent des champignons ?», je vois des mains qui se lèvent timidement. Ils savent bien qu'il ne faut pas et pourtant, ils en mangent quand même. C'est notre mentalité russe. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, presque tous les jeunes sont en mauvaise santé. Je me souviens, avant Tchernobyl, les jeunes d'ici étaient robustes, ils étaient en pleine forme, il y avait peu de maladies. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes.
Aujourd'hui, Les conséquences sur la santé publique sont flagrantes. Les problèmes immunitaires, cardiaques, les cancers sont bien plus nombreux qu'à l'échelle nationale.
Je suis au troisième étage de l'hôpital de Novosibirsk et on croirait un hall de gare. Il y a énormément de patients qui attendent une consultation.
Viktor Khanaïev est médecin à l'hôpital et il enchaîne les rendez-vous. Il a la charge de 3 districts. Il constate au quotidien les effets de la radioactivité sur la santé de ses patients.
En premier lieu, il s'agit bien sûr de troubles du métabolisme. On sait, hélas, que le contexte de radiation interrompt le travail des muqueuses et particulièrement de l'intestin. Ces troubles du métabolisme entraînent une formation de sels et de calculs dans les reins. Il y a aussi beaucoup de cancers de la prostate. Les pathologies cancéreuses sont liées à la radioactivité et la commission spéciale en est venue à la conclusion que les tumeurs sont provoquées par les radiations. Connaissant la situation locale, je dirais intuitivement qu'environ le tiers de mes patients ont des problèmes liés aux radiations.
Jusqu'à présent, les locaux reçoivent des indemnités selon le lieu où ils habitent. Plus la zone est contaminée, plus les compensations sont élevées. Or, la loi a changé. Au mois d'octobre, un décret a modifié ces zones. Certains secteurs ne sont plus considérés comme dangereux. Officiellement, la ville de Novosibirsk, par exemple, n'est plus une zone d'évacuation. Il n'y en a plus que 26, elles étaient 8 fois plus nombreuses auparavant. Dans cette zone sinistrée, les revenus sont déjà faibles, et pour ses habitants, cela signifie une diminution sensible des aides. Anna prend des médicaments tous les jours et répète que son fils a des problèmes immunitaires. Elle s'insurge contre ce décret.
Pourquoi faire ça? Non, les radiations n'ont pas diminué, je n'y crois pas. Je ne cueille plus rien dans la forêt. Il y a 10 ans, j'y suis allée. Je n'avais pas d'argent et j'avais décidé d'aller chercher des myrtilles. On m'avait conseillé d'en manger tous les jours pour ma vue. Je me suis sentie mal, ma tête s'est mise à tourner. J'ai eu envie de vomir. J'y ai goûté une fois, je n'y toucherai plus.
Par ce décret, le pouvoir semble vouloir normaliser la région. Mais c'est aussi une manière de faire des économies en réduisant ou supprimant ses allocations. Lyudmila Komogortseva porte un long manteau rouge vif. Elle habite à Briansk, la capitale de la région, et est à la tête d'une ONG locale, l'Union pour une sécurité radioactive. Elle critique le fait que la décision ait été prise sans concertation publique et sans connaissance du terrain. Selon elle, c'était pareil il y a 30 ans.
Quand on a refusé d'évacuer Novosibirsk, la ville était complètement contaminée. Bien sûr, depuis, beaucoup a été fait pour la nettoyer. On a notamment asphalté les routes et pourtant beaucoup de radionucléides se sont dispersés ici. Théoriquement, il aurait fallu vider la ville. Seulement, il y avait presque 60 000 habitants et pas assez d'argent pour ça. Quant aux fonds débloqués par l'État pour le relogement, ils ont été dépensés en dépit du bon sens. Une rue de Novosibirsk a bien été évacuée, mais où a-t-on envoyé ses habitants? Dans un avant-poste de zone non contaminée dans la région de Briansk, où se trouvait un arsenal de 7500 tonnes d'armes chimiques. On les a détruites depuis, c'était l'année dernière. Mais quand les gens ont su où ils avaient atterri, quelle a été leur première réaction? Valait mieux rester là-bas.
Pour Lyudmila, l'application de ce décret va entraîner une dégradation des conditions de vie. Les habitants auront moins de moyens pour se soigner alors que les radiations, elles, sont bien réelles. Cela va aussi donner l'illusion que la situation a changé. Lyudmila s'indigne de l'absence de prévention, notamment des panneaux d'avertissement à l'entrée des forêts. Selon elle, les gens ne sont pas suffisamment informés.
Qu'est-ce qu'une radiation ? Ça n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur. On en a peur un jour, deux jours, trois jours, mais au bout de 30 ans, c'est fini. Cette impression de ne rien voir, de ne rien entendre, de ne pas sentir la menace détend l'individu. Pourquoi donc ne pas prendre un filet à provisions? Peut-être que ça ne me touchera pas après tout. Dans ces cas-là, je dis toujours ceci. D'accord, vous êtes vieux, retraité, vous ne ferez plus d'enfants. Vous avez conscience que c'est dangereux de vivre ici. Ça vous importe peu de savoir combien d'années vous avez encore à vivre. Très bien, c'est votre problème. Mais quand des jeunes vivent près de vous, des jeunes qui demain feront des enfants, vous commettez un crime à l'égard de vos petits-enfants et des générations futures.
Перед будущим поколением.
Selon un rapport coécrit par Lyudmila Komogortseva, environ 330 000 habitants de la région de Briansk vivent dans des zones contaminées. En ville, l'asphaltage des routes a permis d'atténuer les dangers, mais en forêt et en zone rurale, la situation reste très critique. Pour la population, le principal problème, c'est l'alimentation. Les produits locaux sont impropres à la consommation. Dans la forêt pourtant, il n'est pas rare de voir des bouteilles en plastique au pied des arbres. En Russie, on dit que le jus de bouleau est très bon pour la santé.
L'héritage de Tchernobyl dans la région de Briansk en Russie, c'était un reportage d'Étienne Bouche réalisé par Jérémy Besset.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ukraine, Russie, Biélorussie, comment ces trois pays de l'ex-URSS ont-ils commémoré le 30e anniversaire de l'accident de Tchernobyl? Pour le savoir, nous sommes en ligne avec Muriel Pomponne, la correspondante de RFI à Moscou. Bonjour Muriel Pomponne.
Bonjour.
Alors, trois pays et trois façons différentes de voir les choses. Et on commence avec l'Ukraine. Où se situe la centrale, Muriel?
Oui, l'Ukraine se positionne comme le pays victime. Alors, le jour anniversaire, comme tous les ans, des habitants ont déposé des fleurs et des bougies en mémoire des victimes de l'accident. Et cette année, le président ukrainien Petro Poroshenko s'est rendu à Tchernobyl, lui aussi, pour déposer une gerbe. Comme la centrale se trouve sur son territoire, eh bien, le pays bénéficie de l'aide de la communauté internationale pour sécuriser la centrale et pour aider les populations déplacées et victimes des radiations. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement vient ainsi de signer avec le gouvernement ukrainien un accord sur le financement d'un dépôt pour le combustible nucléaire usé de Tchernobyl. C'est également la communauté internationale qui finance la nouvelle arche qui va bientôt recouvrir le réacteur accidenté et remplacer le vieux sarcophage qui commence à avoir des fissures. Tout cela fait donc que la commémoration de la catastrophe de Tchernobyl est un moment très important en Ukraine.
Mais la situation est, semble-t-il, différente en Biélorussie, alors que c'est le pays qui a été le plus touché par la pollution radioactive, puisqu'un quart de la surface du pays a été irradiée, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui encore, un cinquième des terres cultivables et un quart des forêts sont inexploitables. Les conséquences économiques pour ce pays, peuplé seulement de 10 millions d'habitants, sont donc très importantes. Le président Loukachenko, qui a maintenu en place un système politique autoritaire d'inspiration soviétique, ne peut donc pas faire comme si Tchernobyl n'avait pas existé. Alors il se rend chaque année dans les zones contaminées, mais non pas pour rendre hommage aux victimes, mais pour prôner la réhabilitation et le développement des terres polluées. S'il y va, c'est qu'on peut y vivre. L'idée que la pollution radioactive est quelque chose de réversible, eh bien, cela permet aussi au pouvoir de mieux faire accepter la construction dans le nord du pays de la première centrale nucléaire de Biélorussie. C'est une centrale de technologie russe qui, d'après les experts européens que j'ai interrogés, respecte les normes de sûreté en vigueur en matière nucléaire, mais la Lituanie voisine est néanmoins très inquiète.
La construction de cette centrale crée donc une dépendance économique et politique de la Biélorussie à l'égard de la Russie.
Oui, et en Russie, en Russie, on ne critique pas l'industrie du nucléaire. Donc, les commémorations de la catastrophe de Tchernobyl ont été très discrètes. Aucune cérémonie avec le président Poutine ou un membre éminent du gouvernement. Juste un rassemblement dans un cimetière en présence d'un vice-ministre et quelques initiatives locales. L'industrie russe du nucléaire civil se porte bien. L'année dernière, une grande exposition a été organisée à Moscou à l'occasion du 70e anniversaire de cette industrie en Russie. Il n'est donc pas question de faire état des dangers du nucléaire. Et cette politique semble marcher puisque 33% des personnes interrogées, contre 56% il y a 5 ans, pensent qu'une catastrophe comme celle de Tchernobyl peut éventuellement se reproduire.
Merci Muriel Pomponne. Je rappelle que vous êtes la correspondante de RFI à Moscou. Très bonne journée à vous. C'est la fin de la première partie de C'est pas du vent. Mais restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le Flash Info. C'est pas du vent. À suivre.
Écho d'ici. Écho...